France Inter, il est 8h39. Bienvenue dans Interactive.
Le 7-10. Nicolas Demorand sur France Inter.
Un point rapide d'abord sur la grève des transports et les perturbations à la SNCF. En moyenne, il faut compter un train régional sur deux, 3 TGV sur 4, sauf sur les lignes Nord et Est où la SNCF a prévu de faire rouler tous ces trains. C'était un motif de satisfaction pour vous, Xavier Bertrand, tout à l'heure. Vous êtes notre invité depuis 8h20. C'est grâce, disiez-vous, au dispositif mis en place par le gouvernement sur le service minimum que la grève, finalement, a pu être évitée dans sa dimension la plus spectaculaire. Beaucoup de points sur lesquels on aimerait revenir maintenant avec Philippe Lefébure et Patrick Cohen et les auditeurs de France Inter. 01 45 24 7000. Peut-être un droit de suite, Patrick, sur la négociation européenne sur le temps de travail.
Oui, à propos de l'accord européen conclu cette nuit à Bruxelles sur le temps de travail, 60 à 65 heures maximum par semaine, disiez-vous, au lieu de 48.
Non. J'ai dit
48, c'est la loi européenne.
65 heures par rapport à 78 hier, parce que la durée est à 48 heures, elle reste à 48 heures. Oui. Il y a la possibilité de dérogations qui sont maintenant encadrées, ce qui n'était pas le cas hier.
Mais comment pouvez-vous dire que la France ne serait pas concernée par cette mesure? Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est l'Europe à la carte.
Tout simplement, quand vous transposez une directive, la directive ouvre une faculté. Pour la France, c'est non. La France, c'est non d'aller au-delà de 48 heures. Il y a par contre un secteur, vous le savez bien, où on va au-delà de 48 heures, c'est le domaine de la santé. Voilà pourquoi il était essentiel pour la France de garantir que dans le domaine de la santé, le temps de garde n'était pas du temps de repos.
S'il y a un contrat signé en France entre un employeur et un salarié qui prévoit 60 ou 65 heures de travail
ça
hebdomadaire,
ne marche pas. Je vous arrête tout de suite, ça
si
ne marche pas.
On fait appel à la législation, à la justice européenne, qui aura
c'est
le dernier mot.
C'est la loi française qui s'applique et je vais vous dire une chose. En France, c'est ainsi fait et c'est très bien fait. On préfère toujours l'accord collectif à l'accord individuel. Le droit du travail, il a une histoire, il a un avenir en France.
Oui, mais les négociations vont avoir lieu entreprise par entreprise dorénavant. Donc le
dans
droit
des
du
limites,
travail...
Dans des limites qui sont celles fixées par la législation française qui ne change pas et qui ne changera pas.
Et la limite, c'est 48 heures.
C'est 44 heures sur 12 semaines, mais il faut savoir que la durée légale, elle est à 35 heures et qu'elle restera aussi à 35 heures.
On va passer au standard de France Inter où Annie nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Annie.
Justement, on n'y comprend plus rien. De combien sont majorées les heures supplémentaires et quel est ce forfait d'heures que les entreprises pourraient utiliser? Et pourquoi avoir rompu le dialogue avec les syndicats en devenant le menteur de service?
Merci Annie pour cette question. On ne comprend plus rien. Xavier Bertrand, j'endosse moi aussi avec grand plaisir ce que vient de nous dire notre auditrice.
Alors déjà, elle y va fort Annie. Elle y va fort. Bonjour Annie, bonjour. La première des choses, c'est que vous savez, on a le droit de ne pas être d'accord sur tout avec les partenaires sociaux, certains partenaires sociaux, car tous n'avaient pas non plus signé la position commune. Maintenant, je vais aussi remettre les choses à leur place. Pendant la campagne présidentielle, nous avons dit clairement que si nous voulions garder la durée légale du travail à 35 heures, nous voulions pouvoir donner plus de souplesse. Bien. Si on dit ça aux Français pendant la campagne, qu'ils nous font confiance, et qu'un an après, on leur dit « Écoutez, certains syndicats n'ont pas voulu aller au-delà, tant pis pour vous », je suis désolé, c'est rompre aussi le contrat de confiance avec les Français. Il y a une responsabilité sociale, syndicale, il y a aussi une responsabilité politique. Et je vais vous dire une chose, c'est que nous continuons à nous voir, à nous parler sur de nombreux sujets. Nous avons des sujets comme la pénibilité qui vont prochainement être sur la table, des sujets qui sont enlisés entre partenaires sociaux. Et on nous dit aujourd'hui à l'État, venez dans cette discussion, dans cette négociation, parce que nous n'y arrivons pas. Ça montre bien que le dialogue social en France est plus fort
mais,
que tout.
Mais,
sur Annie,
mais quand
sur la
Annie
question
dit on n'y comprend rien, ça veut bien dire que même si vous répétez que les 35 heures restent la durée légale du travail, dès lors qu'on peut renégocier entreprise par entreprise avec votre nouveau texte, la durée, donc dans chaque... Il y aura autant de durée du travail qu'il y aura d'entreprise, éventuellement.
Comment ça se passe aujourd'hui? Vous faites 35 heures, vous?
Moi, je suis pas ouais. Le sujet. Hein.
Non, mais c'est l'exemple type. C'est que l'erreur d'il y a 10 ans, c'était de mettre le même uniforme des 35 heures à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur d'activité. Or, aujourd'hui, la question que pose Annie, les heures supplémentaires, 25% de plus. C'est ce que l'on a mis en place avec la loi TEPA l'été dernier. Et ensuite, ce qui est aussi très important, c'est que pas d'impôt à payer dessus, pas de charges sociales. Et les heures supplémentaires, à partir de quelle heure? La 35e. de façon à ce que les choses soient très claires.
Bon. Elles sont claires, je ne sais pas.
Est-ce qu'on n'ouvre pas la porte au dumping social d'une entreprise à l'autre, justement, négociant au maximum? C'est ce que vous proposez, c'est vers quoi vous voulez tendre?
Ce qui a été mis en place, notamment.
C'est ce que disait Bernard Thibault.
Ce qui a été mis en place hier soir, enfin, cette nuit, pardon, à Luxembourg, c'est justement pour éviter le dumping social entre les différents États européens. Comprenez bien.
Mais vous l'ouvrez dans les branches. Mais puisqu'on peut négocier entreprise par entreprise.
Mais aujourd'hui, attendez, n'allez pas penser qu'on est passé aujourd'hui d'une situation totalement différente. Ce que je veux, moi, c'est de la souplesse et de la souplesse négociée. Aujourd'hui, vous avez des branches qui peuvent faire 130 heures supplémentaires dans l'année. D'autres, 180, le bâtiment. D'autres, 220. Mais il y en a de très nombreuses qui, à 130, ont des problèmes. Il y a du travail supplémentaire et on ne peut pas en donner. J'étais la semaine dernière dans une entreprise de téléphonie, Phone House. Et là, les salariés et les délégués syndicaux présents m'ont dit, nous, monsieur le ministre, on veut avoir davantage de possibilités de négocier la durée du travail dans l'entreprise. Parce qu'autrement, en décembre, quand les gens viennent acheter des téléphones portables, eh bien, on peut pas travailler. On peut pas travailler, on ne peut pas gagner plus, et on voudrait davantage de souplesse. Qui me disait cela? Les délégués syndicaux.
Il n'est pas question à l'avenir de négocier la rémunération des heures supplémentaires, ça c'est sûr.
On va quand même pas faire le contraire aujourd'hui de ce que l'on a mis en place en octobre. Parce que par rapport à ce qui était dit dans la revue de presse...
Bernard Thibault, il y a une faille dans le texte qu'on nous propose.
Hein. Il n'y a aucune faille parce qu'il n'y a
une
pas...
Une petite faille juridique.
Il n'y a pas une virgule de changer dans le texte précédent sur la rémunération des heures supplémentaires par rapport au texte qui est présenté. Pas une virgule de différence.
Donc ce sera 25% pour tout le monde.
Exactement.
8 salariés.
Mais reconnaissez quand même qu'il y a à la fois une cohérence politique, c'est ce que l'on a fait, et puis en plus les Français savent bien que pour gagner plus, il faut aussi travailler plus. Et ça marche de plus en plus. Les entreprises ont massivement recours aux heures supplémentaires, et les Français également, plus de 5,5 millions, touchent en moyenne 80 euros de plus par mois. C'est du concret.
8 salariés sur 10 ne souhaitent pas racheter leurs jours de RTT. Les cadres y sont les plus opposés. C'est le titre ce matin des Échos, avec en appui un sondage qui vous inspire. Quel commentaire, Xavier Bertrand?
La surprise. Parce que si on interroge tous les salariés sur les journées de RTT, il faut quand même savoir que tous les salariés ne font pas des journées de RTT. Il n'y a que 38% des salariés qui font des journées de RTT. Et je suis impatient d'avoir l'ensemble des chiffres depuis que le dispositif a été voté par le gouvernement. Parce que dans nombre d'entreprises, ça marche avec une logique, la liberté de choix. Moi, je ne veux plus d'une loi qui impose d'en haut. Je veux une loi qui apporte des garanties, mais je veux donner davantage de liberté de choix. Et on s'aperçoit que sur les journées de RTT, j'étais la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon, chez Renault à Flins, et les salariés ont dans leur compte épargne-temps des journées de RTT, eh bien ils choisissent. Pour certains, ils veulent les garder, pour s'occuper par exemple des enfants, mais pour d'autres, on veut justement d'avoir davantage d'argent. Parce que vous savez, il y a différentes étapes dans une carrière professionnelle. J'ai vu des jeunes qui veulent acheter leur logement, ils ont envie de prendre moins de journées de RTT, d'avoir plus d'argent. Et d'autres préfèrent prendre leur journée de RTT. Je veux cette liberté de choix.
Isabelle nous appelle de Mayenne. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour, non. Bonjour messieurs. Je vous téléphone pour vous parler du droit de travail des handicapés. Je suis la mère d'un jeune handicapé mental qui va quitter son établissement. Voilà. Alors moi, la question que je voulais poser, c'était pourquoi les handicapés n'ont pas les mêmes droits que les autres salariés dits normaux? Pourquoi n'ont-ils pas droit de grève? Pourquoi n'ont-ils pas de syndicat pour les protéger? Pourquoi n'ont-ils pas droit au chômage, à la manifestation? Pourquoi la DAS qui leur donne des agréments, pourquoi s'autorise-t-elle à les délocaliser quand le théâtre ne peut pas? Pourquoi se donne-t-il le droit de leur changer leur projet de vie de façon unilatérale, c'est-à-dire mon fils est musicien dans un CAT qui va fermer et on dit que ces jeunes-là vont faire du conditionnement, des choses comme ça.
Merci Isabelle pour ces questions. Pourquoi, Xavier Bertrand?
Parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est le droit à l'accessibilité, c'est le droit à l'autonomie, c'est le droit pour les personnes handicapées d'être vraiment au cœur de la cité, disons les choses très clairement. Il a fallu deux grandes lois, à 30 années d'écart, la loi de 1975 et la loi de 2005, pour qu'on prenne conscience que le handicap était réellement l'affaire de tous. On a voté la loi, ça suffit pas de voter la loi. Il fallait que les décrets soient pris. Les tout derniers décrets sont en train d'être pris. Et ensuite, il faut passer à la vitesse supérieure sur nombre d'actions, notamment en matière de droit à l'emploi. Le président de la République va ouvrir d'ici un peu plus d'une heure la conférence nationale sur le handicap avec des mesures fortes, notamment pour l'accès à l'emploi et aussi pour les conditions de vie. Il va en parler dans maintenant un peu plus d'une heure. Nous avons pris des engagements pendant la campagne présidentielle. Nous ne tournerons le dos à aucun de ces engagements. Mais je vais aller plus loin. Il y a la question du droit à l'accessibilité. Et là aussi, tout à l'heure, dans la revue de presse.
Ouais.
Ce qui était marquant, c'est justement qu'on puisse dire à quelqu'un, vous pouvez pas prendre le train, la gare n'est pas accessible. C'est impensable d'entendre ça aujourd'hui au 21e siècle. Ça va demander de l'argent, je le sais, dans les mairies, pour les établissements publics, des établissements culturels, des établissements qui accueillent du public comme des gares. Mais nous ne réussirons pas à faire de l'accessibilité une réalité. Et je ne veux pas, si nous ne sommes pas en mesure aussi, d'avoir des mesures contraignantes. Et c'est le cas. Mais regardez, ça n'est pas seulement une question d'argent. Il y a des fonds en France pour l'accessibilité pour les handicapés. 6 millions d'euros qui ne sont pas dépensés, qui dorment aujourd'hui dans des fonds. Ce qui montre bien qu'on a besoin d'une prise de conscience de tout le monde.
Philippe Lefebvre.
Est-ce qu'il faut renforcer les sanctions contre les entreprises qui n'emploient pas suffisamment de personnes handicapées ?
Elles ont été renforcées, mais je vais vous dire une chose. Plutôt qu'une entreprise paye des sanctions, je préfère qu'elle recrute une personne handicapée. Vous avez plusieurs centaines de milliers de personnes handicapées aujourd'hui qui seraient en mesure de retrouver un emploi et qui n'en ont pas. Nous avons un taux de personnes handicapées trois fois supérieur au taux de chômage moyen. Ce qui montre bien qu'il faut avoir un travail quasiment très fin pour mettre en rapport ces personnes handicapées qui pourraient avoir un emploi et des entreprises qui préféraient les recruter.
C'est un problème de qualification. Hein.
C'est pas seulement un problème de qualification, c'est que d'avoir accès à l'information et que les entreprises sachent exactement comment on peut intégrer une personne handicapée beaucoup plus facilement qu'on ne le pensait voilà quelques temps.
Patrick, puis le standard.
Le revenu garanti au niveau du SMIC que réclament les associations pour les handicapés, c'est hors de propos, Xavier Bertrand?
Nous avons indiqué que la priorité, ça a été d'ailleurs vu avec les associations de personnes handicapées, c'était d'augmenter l'allocation d'adultes handicapés. De combien ? De 25% sur l'ensemble du quinquennat. On commence cette année, on va plus loin. Nous voulons aussi voir, avec ces personnes concernées, comment on peut mieux les intégrer en matière d'emploi. Parce que pour nombre de ces personnes, celles qui ont la possibilité de reprendre l'emploi, elles veulent un emploi avant tout. C'est pas seulement une question financière, c'est une question aussi de dignité, de trouver sa place socialement. Pour les autres, nous sommes en train de regarder avec Valérie Létard ce qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il ne s'agit pas de dire sur le papier un revenu minimum d'existence et de perdre un certain nombre d'avantages qui sont liés à la situation de ces personnes handicapées. Il ne faut pas que sur le papier ce soit bien et que dans la réalité, qui que ce soit puisse être perdant.
Fabien nous appelle de Paris. Bonjour Fabien, bienvenue.
Bonjour Monsieur Demorand, bonjour Monsieur Bertrand.
Bonjour Fabien.
Précédemment, en fait, on avait l'impression que la gauche mettait de l'idéologie dans le monde du travail et que la droite était pragmatique. Mais aujourd'hui, quand je vous écoute parler du monde du travail, on a l'impression que c'est l'inverse. La droite plaque sa grille de lecture, alors que la gauche, au contraire, dans les collectivités, fait du travail de terrain. Les heures supplémentaires, vous nous dites, Monsieur Bertrand, mais liberté de choix sur les heures supplémentaires, sur les jours de RTT. Mais dans la réalité, moi, je suis dans une entreprise privée et je fais partie d'un collectif de chefs d'entreprise et de cadres du privé qui s'appelle Désir d'entreprendre. On ne choisit pas. Vous avez une société qui vous dit, désolé, mais en ce moment, on est plutôt juste au niveau financier, donc les jours de RTT, vous les prenez, ou au contraire, écoutez, on a plutôt plus d'activités, donc vos jours de RTT, mettez-les dans le compte épargne-temps, mais c'est pas une liberté de choix. Les salariés français, Monsieur Bertrand, vous vivez dans une fiction, quand vous nous racontez des jolies histoires, c'est juste une fiction, ce n'est pas une réalité de la majorité des salariés du privé des entreprises françaises. Voilà.
Merci Fabien pour ce témoignage, Xavier Bertrand vous répond.
Bon bah ils sont sympas les auditeurs avec moi ce matin,
ils sont francs, ils posent des questions.
Ils ont raison d'être francs.
Fiction donc.
Ouais, moi je vais vous dire une chose, chez Renault, là où j'étais, je veux bien emmener Fabien avec moi, je veux bien y retourner. On verra si c'est de l'idéologie ou du pragmatisme, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les salariés, j'y suis pas allé tout seul. Je crois même qu'il y avait France Inter qui était présent avec moi. Quand je vais chez Fonaus la semaine dernière, c'est pas une fiction, c'est pas de l'idéologie, c'est du concret parce que le ministre que je suis a bien conscience que sur le terrain, on voit mieux les choses que derrière son bureau. Maintenant,
et dans ces deux cas, c'est les salariés qui ont pu choisir leur durée de travail. Et
oui, attendez, soyons très précis. On parlait de quoi là? On parlait des journées de RTT. C'est le salarié qui a un compte épargne-temps et qui décide s'il se fait payer ses journées de RTT ou s'il les garde pour lui. Soyons logiques. Nous savons pertinemment que dans l'entreprise, c'est le chef d'entreprise qui a le pouvoir de direction. Mais qu'avant ces textes-là, il n'y avait pas la possibilité pour le salarié de choisir. C'est comme le déblocage de la participation. Nous l'avons mis en place. C'est le salarié qui choisit. Eh bien, ça marche aussi le déblocage de la participation.
Et quand le Premier ministre dit, pour compléter la question de Fabien, François Fillon dit que la droite peut se réjouir d'avoir remporté précisément une bataille idéologique et d'avoir imposé ses thèmes de débat et d'avoir pris ce rôle-là à la gauche. Vous récusez pas le terme d'idéologie, là, Xavier Bertrand?
Non, mais une chose est certaine, c'est Fabien, je crois, qui utilisait le terme. Parler d'idéologie de la gauche. Moi, la gauche, aujourd'hui...
C'est l'inverse, hein, aujourd'hui.
Ouais, sur la question des 35 heures, je les entends pas. Je ne sais pas si le Parti Socialiste défend Martine Aubry et ses 35 heures ou conteste Martine Aubry et ses 35 heures. Ils sont d'une discrétion sans pareil. Vous voulez que je vous dise pourquoi? C'est que visiblement, le monde du travail ne les intéresse plus depuis bien longtemps. Et nous, notre démarche aujourd'hui, elle est à 100% pragmatique.
Nous avons un septième du fameux septuor de l'Élysée avec nous, Xavier Bertrand, puisque vous faites partie de ces sept ministres qui rencontrent le G7, qui rencontrent Nicolas Sarkozy. Peut-être sur ce point, une question, Patrick Cohen.
J'ai envie de savoir, vous avez G7 cette semaine à l'Élysée?
Ah bah écoutez, je vous dirai ça la semaine prochaine. Alors si vous m'invitez à nouveau, je vous aurais dit si on a eu à nouveau une réunion.
Ah, vous voulez pas le dire avant?
Non, j'ai pas envie de vous dire avant les choses.
Donc on sait pas, c'est hebdomadaire, c'est tous les 15 jours?
Ça dépend, mais vous savez aussi, ça dépend aussi les réunions du président de la République avec d'autres ministres, que le G7, comme vous l'appelez vous-même, c'est pas un conseil des ministres bis, ça c'est vrai.
Alors on y parle de quoi?
Et je vais vous dire aussi une chose, c'est que même par le passé, vous m'avez jamais demandé si avant l'élection de Nicolas Sarkozy, il m'était arrivé de rencontrer Jacques Chirac, et même avec d'autres ministres. La réponse est oui.
Vous n'en avez pas parlé à l'époque. Ritualisée, instituée comme ça, Xavier Bertrand.
En tête à tête, Xavier Bertrand, pas d'une manière collégiale.
Vous avez plus de recul que moi, d'expérience que moi, et vous savez bien qu'il y avait même institutionnalisé les visiteurs du dimanche et même du dimanche soir.
C'était pas des ministres, oui, mais c'était pas des ministres.
Ah si, il y en avait. Il y en avait aussi.
Il y avait parfois des ministres.
Voilà, merci de le rappeler. Et derrière ça, qu'est-ce qui se passait à l'époque? C'était discret. Caché, on se voyait en cachette.
Là,
aujourd'hui, c'est au grand jour. Et vous voulez que je vous dise, je préfère quand c'est au grand jour, c'est beaucoup
mieux. C'est au grand jour, mais vous voulez pas dire quand est-ce que...
Voilà, vous avez G7, vous l'avez quand alors le prochain là?
Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Il y a bien une chose que j'ai renoncé à faire, c'est gérer mon agenda au-delà de la journée. Donc, non. Alors là, attendez, je serai bien au défi de vous dire exactement ce que j'ai. Mais bien évidemment, ce groupe, il s'est réuni, il a vocation à se réunir à nouveau, comme le président de la République a vocation à voir d'autres ministres.
Vous parlez de quoi?
Et vous vous rendez compte qu'on est en train de parler depuis quelques minutes?
Non mais on voudrait savoir, il y a un nouveau
de
conseil des ministres.
La question du temps de travail qui visiblement passionnait plus les Français.
Attendez, il y a un nouveau...
Et vos auditeurs.
Il y a beaucoup de questions sur le G7. Il y a un nouveau conseil des ministres, on aimerait savoir à quoi il sert.
Ah oui, c'est vrai. Demain.
Demain
il y a un nouveau conseil des ministres, comme chaque semaine. C'est le mercredi, c'est à 10h, c'est à l'Élysée.
Et pourquoi vous n'admettez pas que c'est un autre conseil des ministres?
Parce que ça n'est pas un autre conseil des ministres, voilà. Et là, regardez, vous êtes trois ici, c'est pas un autre conseil de rédaction. C'est pas un comité de rédaction, voilà.
C'est une table ronde où la parole circule.
Et c'est la même chose que...
Bah, je sais pas, c'est vrai. Non, mais vous, au G7, ça se passe comment, alors? Mais de quoi vous parlez? Dites-le-nous, qu'on le sache.
Vous contribuez, Xavier Bertrand, à entretenir le mystère plutôt qu'à le dissiper, hein, pardonnez-moi, sur ce G7.
Ne vous inquiétez pas.
On s'inquiète pas, on est curieux.
C'est ce qui fait d'ailleurs l'une des grandes qualités des journalistes.
Et on ne comprend rien, parfois, hein, avec vos questions, vos réponses, pardon, un peu bizarres.
Merci, bel aveu. Merci
Allez,
beaucoup.
On en reste là sur ce lapsus dramatique. Merci Xavier Bertrand.
Merci
on vous
à
réinvitera
vous.
Donc après votre prochain G7, hein, quand la date sera fixée. Et puis il faudra venir nous réexpliquer l'histoire des 35 heures et de la durée du travail, parce que visiblement c'est encore flou dans l'esprit d'un certain nombre de nos auditeurs.
Vous avez souhaité passer plus de temps pour parler du G7 que des 35 heures à votre disposition.
Pas plus, c'est de la mauvaise foi. Allez, merci d'avoir été là.